Bon, alors, roman, la passion du roman, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble une évidence? Est-ce que le titre complet, c'est Bonheur de raconter, la passion du roman. Est-ce que pour vous, déjà, raconter, c'est un bonheur?
Bonjour.
Hervé Joubert.
Alors Hervé Joubert, auteur de romans polar, historique, fantastique, SF, fantasy.
Jeune adulte.
Oui, beaucoup jeune adulte maintenant, mais oui, il y a autant d'adultes que de jeunes adultes qui lisent ce genre de romans, donc voilà, c'est un peu depuis 15 ans. Et alors est-ce que c'est un plaisir? Bah, oui, je pense que si c'est pas un plaisir, on le fait pas. A priori, on fait pas ça comme à temps plein ni à temps partiel s'il n'y a pas de plaisir. Je pense. Enfin, j'ai jamais rencontré d'auteurs qui le fassent par des plaisirs. Mais alors, il y a peut-être dans la littérature générale, dites la blanche, qui font ça par des plaisirs et qui creusent les névroses, les enfances difficiles ou je ne sais quoi. A priori, nous, on est dans le roman de genre, on raconte des histoires.
Comme l'autofiction, vous voulez dire? Des choses
Oui,
comme
je sais
ça?
pas, sans stigmatiser un style plus qu'un autre, mais nous, on est dans le plaisir de raconter des histoires. Je pense tous. Enfin, en tout cas, vous allez peut-être me dire non ou oui, mais je sais pas, mais oui, il est d'accord. Mais j'ai jamais rencontré d'auteur qui raconte voilà, qui est là pour raconter des histoires, qui le fasse par des plaisirs. Donc oui, par plaisir, évidemment.
Cassandra.
Effectivement,
ah, il marche pas alors.
Effectivement, je crois que quand on choisit la littérature de genre, a priori, soit le genre fantastique ou un autre genre, c'est toujours pour raconter effectivement des histoires. On n'est pas dans la masturbation intellectuelle, on n'est pas dans l'autosatisfaction, on n'est pas dans la recherche introspection, on est vraiment des conteurs. En fait, c'est nous qui remplaçons un petit peu. Bah autrefois, il y avait voilà, on faisait ça autour de l'âtre. Il y avait voilà, ça se passait comme ça. C'était par voie orale. Là, effectivement, on est des conteurs. Donc on va vous emmener dans des univers qui sont les nôtres, ceux qu'on a créés. C'est complètement imaginaire. Et c'est ce qui est intéressant justement, c'est de savoir si on est capable ou pas d'emmener avec nous les lecteurs. C'est notre défi en fait, en tant que nous auteurs. Le défi, c'est justement de vous emmener avec nous. Quelquefois, ça fonctionne. Quelquefois, ça fonctionne pas. Et c'est toujours très très difficile de trouver le moment où vous parlez à quelqu'un, enfin, quand vous racontez une histoire, vous avez l'impression de parler à des gens et que ceux-ci vous écoutent. Le problème, il est là, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont aimer mon histoire? Ce que je vais raconter, est-ce que ça va leur parler? Est-ce que je vais les emmener? Est-ce que je vais parvenir à les entraîner dans mon univers, qui est un peu particulier? Est-ce qu'ils vont aimer mes personnages? Est-ce qu'ils vont s'identifier? Voilà, c'est tout ce que nous, on aime faire en tant qu'auteur de genre.
Michel, est-ce que vous êtes un troubadour de l'écrit?
Alors, ça marche ou ça marche pas?
Ça marche.
Bon, moi, je suis beaucoup plus égoïste que ça, parce que si j'écris, c'est avant tout pour moi. Je pense que c'est pour répondre à un besoin qui est né en moi au fil du temps, mais c'est quand j'ai commencé à écrire, c'était pour écrire et pour développer ce que j'aurais voulu lire dans le domaine de la fantaisie et que je ne trouvais pas. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Après, c'est vrai que le rapport, la complicité qu'on peut avoir avec les lecteurs, forcément, ça se superpose à ce besoin personnel. Et c'est vrai que quand je dis complicité, c'est une vraie complicité. Si on vient ici, c'est avant tout pour discuter avec les lecteurs, pour échanger, pour entretenir ce lien, et c'est un lien qui est capital. Un écrivain sans lecteur n'est pas, pour moi en tout cas, n'est pas vraiment un écrivain. Donc il y a ça, il y a le besoin personnel de faire sortir, de matérialiser quelque chose qu'on a en nous, que ce soit un univers, que ce soit des personnages, que ce soit, enfin bon, ce genre de choses. Et puis après, ce besoin s'enrichit et se renforce avec le contact et le retour des lecteurs. Moi, ça m'est arrivé que certains lecteurs me disent vous m'avez redonné goût à la lecture. C'est une récompense extraordinaire parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, comme je l'ai dit, je voulais écrire pour moi. Jamais je pensais que je donnerais envie à des gens de lire. Donc voilà.
Roger, vous qui êtes dans un univers peut-être un peu différent des trois autres invités, est-ce que pour vous aussi, vous êtes, cela dit, un romancier? Est-ce que vous aussi, c'est le plaisir de raconter des histoires en premier?
Alors, je vais revenir un peu en arrière, parce que
Oui.
moi, je suis ici comme un cheveu sur la soupe, puisque nous sommes dans le Festival des Imaginales, et je pense que c'est très bien, Stéphanie Nico, depuis quelques années, invite quelques auteurs qui ne sont pas, n'appartiennent pas à ce monde. Encore que certains peuvent avoir un pied dans un monde et un pied dans l'autre, comme toi. Moi, je suis un auteur de romans noirs. Donc, ce qui vient d'être dit, et que je respecte infiniment, c'est le contraire de ma démarche. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde réel, et c'est de... Enfin, ce monde réel, c'est d'essayer de le décrypter. Mais comme je ne suis pas historien, parce que c'est un métier, et je dirais même que c'est scientifique d'être historien, mais que je suis passionné par l'histoire, je me saisis du roman noir, qui est le meilleur truchement possible, à mon avis, pour parler d'histoire en dehors des livres d'histoire. Donc, il y a des sujets qui me passionnent, qui sont en relation avec des engagements très anciens, puisque j'ai toujours été, depuis que j'ai 14 ans, très très engagé politiquement dans un certain nombre de combats, et que je continue de le faire dans le Vaucluse, où on en a bien besoin. Et donc, des choses me touchent énormément, et j'écris sur ces choses-là, parce que, motivé par une passion qui est la nôtre, et ça, c'est commun, mais ma passion, c'est d'essayer de faire partager à des gens, de faire connaître à des gens des sujets qui sont pas forcément très connus, qui sont méconnus, voire inconnus. Je vais donner deux exemples parce que c'est quand même plus simple à comprendre. Je me suis toujours passionné pour l'histoire du mouvement ouvrier noir aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques années un secret, parce que c'est un secret, c'est la présence d'un cimetière clandestin américain, enfin clandestin, semi-clandestin en France, qui est un cimetière très particulier puisque il est gardé, enfin, il y a des clôtures, il y a des chiens, on ne peut pas rentrer dedans, il y a 98 petites plaques de 20 cm sur 20 cm numérotées de 1 à 98, et en dessous, il y a les ossements de 98, enfin, il y en a plus que 96, mais peu importe, soldats américains, dont plus de 80% de noirs, qui ont été pendus ou fusillés en France, en Belgique, en Italie, en Angleterre. Tous ces ossements ont été rapportés là. C'est ce que j'appelle le cimetière des hommes perdus. C'est ces soldats qui ont été condamnés pour viol, pour agression, pour désertion.
Donc il est question dans votre roman.
Voilà, certains sont innocents, d'autres sont coupables, mais n'auraient peut-être pas été condamnés à mort s'il n'y avait pas eu des tribunaux, des cours martiales expéditives où ils n'ont pas pu se défendre. Voilà. Donc j'apprends ça, c'est un sujet qui me passionne, et donc je bâtis mon histoire à partir de celle-là. Mon dernier livre, dernier qu'on voit pour Buchenwald, comme son nom l'indique, on n'est pas dans l'imaginaire, j'avais envie de parler d'un aspect tout à fait méconnu de l'histoire des camps, et en particulier de celui de Buchenwald, c'est-à-dire celui de la résistance, puisque Buchenwald, quand les Américains arrivent, Buchenwald est libéré en réalité par le comité international, les armes à la main, ils ont fait plusieurs centaines de SS prisonniers, et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer comment, dans ce camp de concentration, au cœur de l'horreur, des hommes ont réussi à bâtir l'espoir, à survivre eux-mêmes et à permettre moralement et physiquement à beaucoup d'entre eux d'affronter, pas seulement par les armes, mais aussi avec d'autres armes, telles que la musique, telles que la religion, telles que la peinture, à l'intérieur d'un camp de concentration. Donc on est dans un monde qui n'est pas tout à fait le même, puisque j'ai tendance à dire quelquefois que j'ai très peu d'imagination. Alors après, on me dit que ce n'est pas vrai, parce qu'il en faut aussi pour écrire ce genre de choses. Mais c'est un autre aspect, voilà. Donc, bon, après, quant au plaisir, ben oui, tu as raison, on n'écrit pas si on n'a pas envie d'écrire. Enfin, s'il y a bien un métier, si j'ose dire, où on n'est pas forcé, celui qui n'a pas envie d'écrire, celui qui n'y prend pas de plaisir, ben, qu'il fasse autre chose, voilà. Hein. Après que, dans l'écriture, il y ait des moments de doute, de torture, moi j'en ai jamais connu, j'ai pas, mais c'est aussi à cause de ce que je fais, j'ai jamais l'angoisse de la page blanche, et c'est peut-être parce que je pars de faits réels, donc
il y a de la matière.
J'ai de la matière que je travaille avant, c'est pas tout à fait la même chose, mais à aucun moment je ne suis forcé de le faire, donc les tourments que je peux endurer à tel ou tel moment, c'est plutôt après, c'est-à-dire quand on veut défendre un livre, qu'on voit quelquefois que c'est très difficile, que le marché est submergé, que naturellement tous les auteurs se plaignent que leur éditeur ne fait pas assez pour eux, et souvent c'est vrai, et
non,
voilà.
Pas tous.
tous.
Mais, non, mais ce que ah je
non,
veux
dire. Non, moi j'aime bien. Moi,
non, mais moi aussi bien. J'aime bien mon édire, mais on a toujours tendance quand même à ne pas être satisfait d'un certain nombre de choses. Mais voilà, ça vient après. En tout cas, au moment de l'écriture, non, c'est toujours un plaisir. Et autrement, je ne le ferai pas, voilà, tout simplement.
Alors comme on voit, vous avez plutôt tendance à éclairer les zones d'ombre de la réalité. Est-ce qu'on peut dire que pour l'imaginaire, au contraire. On intègre dans une réalité qui est peut-être pas assez lumineuse des choses étranges, des choses.
On la transforme, oui, tout simplement.
Pour la transcender un peu.
On la transcende et on la transforme. Donc on s'arrange avec la réalité. Donc moi par exemple ce que fait Roger, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie vraiment d'emmener mes lecteurs dans un monde qui n'existe pas, de changer, voilà, de complètement transformer cette réalité, de la mettre à ma sauce, changer les règles existantes, etc. Et c'est ce qui m'amuse, c'est-à-dire comme nous quand on. Après bon, c'est vrai qu'effectivement là je fais une comédie policière, je me sers de la réalité. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est de créer des personnages un peu hors normes, mais auquel cas, effectivement, quelle que soit la littérature de genre qu'on choisit, que ce soit du roman policier ou la fantasy, de la science-fiction, là pour le coup on réinvente tout, donc on fait de l'anticipation, donc, et on peut servir en anticipation effectivement de la réalité, mais c'est vrai qu'on a une autre façon, c'est-à-dire qu'on la modifie, on la change, elle nous convient pas, on fait ce qu'on veut. Donc c'est ce qui est intéressant de faire pour nous. Enfin, moi personnellement, je suis pas là pour apporter aux gens de la culture. Je suis vraiment sur une littérature, ce que j'appelle un acte de plaisir,
de divertissement,
pur et dur. Et effectivement, c'est ça, quoi.
Alors pour parler de cet aller-retour entre réalité et fiction, Hervé Joubert, avec votre dernier livre Monstre, on a un jeu en ligne qui devient réalité, des chimères à protéger. Est-ce que le virtuel n'est pas...
Non. Moi, ma démarche, c'est encore différent. C'est pas vraiment fantasy, c'est plus fantastique. Moi, j'ai toujours été attiré depuis tout môme par les merveilles du monde qui nous entoure. Voilà. Même je prends l'avion pour venir, je reste ébloui par le moment où on traverse les nuages.
Vous applaudissez l'atterrissage?
Non. Non. Parce que je suis un peu comme ça. Mais je me souviens, môme, ma première claque, c'était un prof de physique ou de science, je sais pas, qui nous a fait comprendre que les étoiles qu'on peut voir dans la nuit, dans le ciel étoilé, certaines ont déjà disparu, mais la lumière nous parvient encore. Donc c'était ce genre de prise de conscience comme ça qui sont extraordinaires. Et je continue depuis toujours, je note des occurrences, des faits, des petites zones d'ombre, des petits faits divers merveilleux, et j'en fais des livres. Alors, Monstre, en fait, c'est une série de 7 bouquins dont le principe, je réunis 7 ados qui se connaissent se rencontrer par un jeu en ligne où il s'agit de protéger des chimères. Et ils se rendent compte que les chimères existent vraiment sur Terre et il faut les protéger. C'est de l'écologie fantastique, il y a un chasseur qui les traque, etc. etc. Mais c'est parti d'un fait divers. Bon, il y en a eu un autre plus récent qui est encore plus intéressant. On voit des journaux télévisés à 20h qui nous expliquent le monde, qui nous disent voilà, il y a eu un séisme il y a 2 heures à Haïti, ça se passe comme ça, la météo à 12 jours, mais il y a beaucoup de zones d'ombre encore sur Terre, quoi. Sans parler des océans, même sur les terres émergées, on voit pas tout. Et par exemple, il y a pas longtemps, un internaute se penche sur Google Earth. Il y a plein d'internautes qui traquent comme ça les détails étranges. Comme ça, il y en a un qui vient de repérer un cliché sur le Loch Ness, disant que c'est le sillage de Nessie, mais c'est marrant, quoi. Effectivement, l'image est troublante. Et il repère une île dans le Pacifique Sud, loin des routes commerciales, et sur une plage, il y a un grand SOS. Bon, il alerte l'État correspondant, et ils ont l'intelligence d'envoyer un petit avion de reconnaissance qui repère une naufragée qui s'était échoué là. Il avait 2 compagnons de navigation qui étaient morts, le bateau avait été coulé, et il était là depuis 2007. Donc ça se passe aujourd'hui, il y en a peut-être d'autres. Et il y a plein d'histoires comme ça de voilà.
Est-ce qu'elle avait un ballon de...
Non, elle avait juste la bonne idée de mettre SOS, et c'est un internaute, ça peut être n'importe qui l'a retrouvé, quoi, finalement. Et ça me fait frémir, quoi. Ça me fait frémir. Je veux dire, il y a une histoire à raconter, c'est bon, c'est réglé, on y va, quoi.
Vous vous rendez compte que là, régulièrement, tout le monde va aller sur Google Earth en cherchant son rescapé.
Il y a des trucs à découvrir,
quoi.
Il y a des anthropologues qui traquent les ossements par les satellites. Il y a une égyptologue américaine. Alors, les Américains, ils sont toujours dans le bigger is better, mais elle dit avoir repéré 150 pyramides dans le désert grâce à ça. Mais c'est clair qu'on va faire des découvertes aussi comme ça. Et c'est passionnant. Voilà. Donc c'est plutôt ma démarche, c'est plutôt ça. Moi, c'est partir toujours du réel. Moi, je suis toujours la réalité précède la fiction. Tirer ce qui est merveilleux et raconter des histoires avec.
Michel, un départ sur le réel.
Moi, c'est le contraire. Moi, j'ai un univers merveilleux et je puise régulièrement parce que j'ai décidé d'écrire des cycles.
C'est une de mes questions, justement. Est-ce qu'on fait le choix du cycle ?
Alors, le choix, il n'était pas forcément là au début, mais il s'est imposé assez vite. Tout l'intérêt du cycle, c'est qu'on peut faire évoluer ces personnages sur la durée et qu'on peut faire beaucoup de choses avec eux. Et effectivement, au fur et à mesure des tomes, puisque dans mon cycle principal, j'en suis au 8e tome, je puise régulièrement dans la réalité. J'en suis même à mettre des recettes de cuisine.
On peut réaliser chez soi ou...
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais tu parles de cuisine parce que tu as faim ou...
Oui.
Non, c'est ça.
Oui, j'aime bien manger, j'aime bien boire et ça fait partie des choses qui se retrouvent dans mes romans. Donc moi, c'est la démarche inverse à celle d'Hervé, c'est que je nourris l'imaginaire avec le réel.
Cassandra, en tant que créatrice d'un univers à règles complètement différentes, c'est quoi le lien avec le...
De toute façon, l'urban fantasy est ancrée dans la réalité, donc on s'en sert. Et j'ai à peu près la même démarche que Hervé, parce que de toute façon, on sert évidemment l'urban l'intéresse. Enfin, l'intéresse, c'est pas une question d'intérêt, mais contrairement à la fantasy où on réinvente entièrement le monde, on réinvente tout.
On est créateur d'univers.
On est créateur d'univers. L'urban fantasy, on se sert de la réalité de nos jours. Ça se passe dans les villes de nos jours et après on change les règles. Et on crée effectivement des créatures magiques, des histoires fantastiques à base de réel. Mais c'est vrai qu'on s'amuse, on s'amuse. C'est un jeu, c'est-à-dire que quand moi j'écris Rebecca Keane, je m'amuse comme une gamine. Voilà, je déplace et c'est comme quand on était enfant et qu'on s'inventait des choses. Voilà, et on s'inventait des univers et qu'on jouait tout seul dans sa chambre et qu'il y avait ça qui se passait. Bon, on fait pareil. Sauf que là, on l'écrit et on emmène avec nous les lecteurs, mais c'est tout.
Donc on peut être dans un cycle parce qu'il y a tout, dans cet univers-là, il y a toujours des histoires à raconter.
Oui, et puis peut-être parce que dans le cas de Rebecca Keane, c'est parce que c'est une seule et même histoire qui est séparée en 7 tomes, tout simplement. Elle était beaucoup trop longue à raconter. Donc effectivement, je fais cet tome sur les Rebecca Keane. On pourrait la décliner bien plus que ça, mais ce serait ennuyeux et redondant. Donc effectivement, là j'ai pris une héroïne, c'est le destin d'une jeune femme et je vais aller jusqu'au bout. Peu ordinaire, donc il y a toute une mythologie à reconstruire, etc., etc. Ce qui est plutôt assez rigolo à faire. Mais bon, je m'amuse comme une gamine quand on parle du bonheur d'écrire. Ah mais c'est comme quand je jouais à la poupée quand j'étais enfant ou... Voilà, j'emmène les gens avec moi dans cet univers et je me dis on va jouer ensemble.
Pour en revenir au fait d'écrire de façon beaucoup plus pragmatique, est-ce que vous pourriez raconter ce qui se passe dans votre imaginaire ou les choses que vous avez envie de dire sur le réel? Est-ce que vous pourriez le raconter d'une façon différente que par le roman? Est-ce que vous pourriez peindre? Est-ce que artistiquement vous pourriez exprimer? C'est une question. Puisqu'on parle du plaisir d'écrire, est-ce que vous pourriez écrire de la musique, artistiquement, avoir une qualité d'expression différente, un moyen d'expression différent?
Chez moi, oui, parce que je faisais déjà ça en audiovisuel. Je racontais des histoires en faisant du reportage ou du documentaire, ce qui était mon job. Je racontais déjà des histoires, effectivement, de cette façon, d'une autre façon, avec de l'image, avec du son, avec des commentaires, et c'était un peu différent. Mais c'est toujours de la narration. Mais vous racontez une histoire, vous racontez quelque chose. Donc pour moi, oui, mais certainement pas du dessin, je vous le déconseille.
L'écrit, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, comme un espèce de bouillonnement, c'est...
Oui, je pense que c'est une passion qu'on a en général tout petit. Simplement, il y a une occasion qui fait que, contrairement à beaucoup de gens, à un moment, on peut passer... à autre chose, à une réalisation, à des projets de plus grande ampleur. Moi, je fais des scénarios de BD aussi. Donc, je ne pourrais pas faire de peinture, les gens auraient peur. Je ne pourrais pas faire de musique, j'en suis totalement incapable. Je dessine très mal, d'ailleurs, c'est pour ça que les BD, heureusement que c'est un dessinateur et que ce n'est pas moi. En revanche, un scénario, que ce soit de bande dessinée ou de film, c'est des choses qui ont un rapport, si ce n'est que l'écriture n'est pas la même. Puisque on n'attache pas la même importance au style dans un scénario qui est beaucoup plus dépouillé qu'un roman, voilà. Mais autrement, mon univers ne me permettrait pas de m'adonner à musique, peinture, etc. Voilà. J'aime, mais j'en serais totalement incapable moi-même.
Et est-ce que le roman, c'est Alors, au niveau de l'écriture, est-ce que c'est le moyen d'expression le plus libre ? Est-ce que vous avez déjà essayé à la nouvelle, à un format différent ? Est-ce que pourquoi choisir ce format du roman ou de la série, d'ailleurs, qui est peut-être un autre format que celui du simple roman one shot ?
Je pense que c'est propre à chacun, mais moi, en tout cas, effectivement, je suis beaucoup plus libre dans le roman que dans la nouvelle, ne serait-ce que pour la raison du format. La nouvelle, il faut vraiment... C'est intéressant d'écrire une nouvelle. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais c'est très intéressant parce qu'il faut vraiment, condenser au maximum et il faut vraiment mettre l'essentiel. Mais du coup, on est moins libre que ce qu'on peut faire dans un roman ou ce qu'on encore mieux dans un cycle, comme moi je fais.
Hervé ?
Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aime bien faire une nouvelle de temps en temps, pas deux par an, histoire d'avoir la contrainte, de retrouver cette contrainte, puis pour après retrouver le plaisir de me lâcher dans le roman, parce que c'est vrai que le roman, c'est l'espace de liberté totale, quoi. Les seules contraintes qu'on a, c'est quoi ? C'est les limites de l'imagination, c'est le temps qu'on peut y mettre, l'énergie qu'on peut y mettre, c'est les capacités des personnages, c'est la complexité de l'univers. Après, on déploie, on s'en sent petit à petit ou avant ce que ça pourra donner. Mais on est totalement libre, et bien plus libre, je trouve, que dans l'audiovisuel, où la seule contrainte technique, effectivement, c'est le temps et l'énergie qu'on peut mettre. Voilà. Après, on peut raconter tout ce qu'on veut, quoi.
Mais cela dit, vous avez l'air de donner à cet exercice un côté facile et très libre. Il y a quand même techniquement la différence, par exemple, entre la nouvelle et le roman. Michel en parlait sur la technique et la nécessité d'être ramassé dans la nouvelle. Il y a techniquement quand même dans le roman des choses qui fonctionnent pas. Peut-être le cliffhanger ou trop de rebondissements ou le deus ex machina trop apparent ou les clichés. Il y a quand même des choses dans le roman qui vous contraignent un peu.
Bah, c'est pas du tout le même exercice. Nous, nouvelle, roman, je pense que c'est pas du tout le même support, la même longueur, ça a rien à voir, effectivement. Mais de toute façon, c'est vrai que le côté technique, il est toujours là. Là, c'est le côté un peu pas déplaisant, parce que c'est plaisant de travailler son art et d'avancer, etc., etc. Mais ça reste aussi un boulot, on parle de plaisir, de passion, etc., ça reste un boulot très technique aussi. Où il y a un moment, quand on devient écrivain, je trouve qu'on lit différemment. Il y a la notion de plaisir, puis la notion comment il fait pour raconter ses scènes d'action. Il est super son personnage, comment il l'a amené, comment il commence sa scène, comment il termine son bouquin. Et c'est des trucs, quoi. C'est comme un menuisier qui est en apprentissage chez un maître pour faire tel meuble. On apprend et on essaie de faire, si on est absolument ébloui par un auteur, on essaie d'arriver à sa cheville, quoi. Et là, c'est le côté technique qui est sympa et aussi dur.
Il y a une technicité qui vous semble contraignante par moment, Rebecca ou Michel ?
Moi qui fais des cycles, oui, au bout d'un moment, quand on est dans un cycle, il faut suivre la logique qu'on a instillée petit à petit. Et c'est vrai que du coup, on est en quelque sorte moins libre que si on faisait que des one-shots. Mais
à cause de la cohérence de l'univers,
à cause de la cohérence de l'univers, à cause de ce qu'on a mis en place par rapport au personnage, et de la cohérence de l'ensemble et de la trame principale. Moi, je fonctionne un peu comme dans les séries américaines. Dans chaque tome, j'écris une aventure qui démarre et qui se termine dans le roman, et en même temps, au fur et à mesure du cycle, je dévoile et j'enrichis une trame qui va prendre l'ensemble du cycle. Et c'est ça qui, effectivement, c'est pas une prison, mais du coup, on est moins libre que ce qu'on pourrait faire si on fait un one-shot. Mais ça fait aussi partie du plaisir, ça fait aussi partie du défi, et c'est pas du tout désagréable.
Bon, non, c'est même plutôt intéressant. Et pour le coup, les clichés, justement, moi par exemple, je m'en sers beaucoup. Mais effectivement, c'est très intéressant parce qu'on garde, on est obligé de garder. On a créé des personnages, il faut que tout soit conforme, l'univers que vous avez créé soit conforme, qu'il évolue, qu'il change. Mais qu'en même temps, le lecteur puisse toujours s'y retrouver. On est plein de contraintes quand on fait une saga, quand on fait un cycle. On est plein de contraintes, mais
c'est pour ça que je
mais c'est ce qui rend les choses intéressantes.
Sur les... C'est l'impression que Hervé, c'est pas si libre que ça.
Non, parce que, non, mais non, parce qu'on
c'est
a,
un, c'est un
a des
boulot,
obligations
quoi.
Qui sont liées à la cohérence de l'ensemble. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est, d'abord parce que les gens ne nous suivraient pas. Et pour le coup, ils ne s'identifieraient plus, ils ne comprendraient plus l'histoire et ça ne les intéresserait plus du tout. Ils diront, mais complètement disjonctés, ou ils ont complètement disjoncté, ça n'aurait plus de cohérence. Or, le but, c'est de les entraîner dans un univers complètement différent ou imaginaire, mais qui paraissent malgré tout cohérents. Ça va à l'encontre de tout ce que les gens sont habitués au réel. Ben non, ils y croient, cet univers. C'est là où on réussit. C'est-à-dire que, eh ben, en fin de compte, il existe. Et c'est à partir de ce moment-là, on ne peut pas détruire. On a créé quelque chose d'autre, de nouveau, et qui en germe. Et quand on fait une saga, on, voilà, on le fait lentement germer jusqu'à ce qu'il éclose complètement.
Bien. Et est-ce que justement, ce rapport avec le lecteur, est-ce que l'existence du numérique, enfin de, pas du numérique, est-ce que le rapport Internet, en dehors de Michel parlait de rencontrer son lectorat en salon, est-ce que le rapport Internet, est-ce que le fait que les lecteurs soient très proches, potentiellement, soient en mesure de chercher sur du numérique ce que vous avez écrit, de faire des relations, enfin, avant, je pense que quand on voulait être encyclopédiste d'un univers comme celui de Michel Robert, par exemple, il fallait prendre le temps de bien tout lire, de éventuellement prendre des notes. Maintenant, est-ce qu'avec le fait que les choses sont en numérique, on ne peut pas être plus facilement tatillon en tant que lecteur ? Est-ce que vous vivez ça, tout simplement ?
C'est au lecteur qu'il faut poser la question, en fait.
Non, non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous vivez des rapports avec des lecteurs un peu, je vais mettre des guillemets, un peu chiants ou un peu plus pointilleux sur votre univers que vous pouvez l'être vous-même ?
Non, il n'y a pas de lecteur chiant, de toute façon. Enfin, on peut tomber sur un fou de temps en temps, mais des monomaniaques qui cherchent du gobelin dans un monde fantasy, s'il n'y en a pas, vous le jetteront la figure, mais c'est très très rare quand même. Mais le numérique, c'est tout petit, hein, c'est moins d'1% des habitudes de lecture en France, donc ça m'est jamais arrivé d'avoir un retour comme ça direct de lecteur. Hein. C'est plutôt au niveau du changement numérique, c'est plutôt au niveau des critiques, des blogs littéraires, des communautés de lecteurs, les BookNotes, Babelio et compagnie, qui permettent de diffuser l'information, je trouve, qui sont intéressants.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce que les lecteurs aiment. C'est-à-dire que quand on voit sur BookNotes les lectures qu'ils aiment, les commentaires, les choses comme ça, dans des gros sites comme ça, effectivement, c'est intéressant. Pour le coup, pour les Rebecca, les choses comme ça, oui, bah, les lecteurs ont des exigences. Et puis alors, je peux vous dire que... Alors, je n'ai pas vu assez à les lecteurs d'Urban, c'est particulier. On est vraiment dans un genre particulier, quoi. C'est pas du tout la même chose que les lecteurs de fantasy habituels. Donc, pour le coup, alors, ils sont beaucoup plus déjà dans les... Ils sont fans des persos ou de tel ou tel personnage. Et là, ils vous disent, je comprends pas, tel tome, on l'a pas beaucoup vu, ça suffit pas. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là? Je comprends.
Voilà. J'ai droit à ça aussi dans les
fantasy. Ah ouais?
Ah, carrément.
Ah, putain.
Non, mais... C'est vrai. Non, non, mais c'est pas qu'ils sont chiants, mais c'est vrai que
c'est pas chiant.
Enfin, moi, je fais souvent la réflexion. Plus ils aiment, et plus ils sont exigeants. Effectivement.
Ouais,
ils peuvent aller chercher. Ils peuvent aller chercher des trucs beaucoup plus loin que ce que nous on avait prévu. Ils ont des interprétations qui, des fois, moi, j'ai envie de dire, bah écoute, ouais, si tu vois ça comme ça, très bien. Mais moi, quand je l'écris, mais c'est pas désagréable. C'est Il s'approprie l'univers parce que l'univers les passionne et on ne peut que s'en satisfaire parce que...
Ah mais c'est génial, sauf que par exemple, quand tu veux tuer un personnage, c'est compliqué.
Oh, m'en parle pas.
Moi, sur le... Parce que c'est un roman que j'ai lu il y a assez longtemps, parce que ça me touchait un peu particulièrement, mais est-ce qu'on n'a pas envie quand même, même quand on écrit sur des faits, sur du factuel, est-ce qu'on n'a pas envie quand même de temps en temps de combler les zones d'ombre, de combler les blancs par un peu de lyrisme ou un peu de romantisme ou un peu d'invention? Est-ce que c'est pas une tentation
de toute façon, ça ne peut pas
être... Pour les dialogues.
Même si c'est inspiré par des faits réels, c'est pas un bouquin comme Jusqu'à ce que mort s'en suive ou Dernier convoi pour Buchenwald, ça peut pas être... 400 pages de faits réels, puisqu'il y a des personnages. Il y a beaucoup de personnages réels, mais mes héros, le héros principal n'est jamais. C'est une création, parce que j'ai besoin de lui faire rencontrer un certain nombre de gens, j'ai besoin de lui faire vivre un certain nombre de choses. Et donc, lui, je ne peux pas choisir un personnage authentique. Même s'il évolue, même s'il rencontre des gens qui ont réellement vécu, qui ont fait ce que je raconte. Donc, la part de romanesque, elle y est forcément. C'est moi qui choisis le caractère des personnages, c'est moi qui choisis leur évolution, mais simplement dans un cadre qui est un cadre où là je suis obligé de respecter des choses puisque ce sont des choses authentiques, même si mon but c'est souvent de les montrer sous un jour inhabituel, puisque c'est pas que soit le camp de concentration ou bien la question de la ségrégation dans l'armée américaine, ce que j'essaie de montrer c'est ce qu'on ne lit pas ou ce qu'on ne voit pas quand on s'intéresse à ce genre de sujet, c'est-à-dire des aspects ignorés. Mais pour le reste, il y a, oui, il y a une création d'un monde romanesque, et je dirais que c'est pas, ça touche tous les genres, et au XIXe siècle, ça touchait aussi les auteurs du XIXe siècle, etc.
Ce que je trouve très, très intéressant, du coup, c'est de se dire que, quel que soit le genre qu'on choisit, vous avez des contraintes qui sont celles, les contraintes de la réalité voilà. qui est existante, et dans les auteurs de fantasy ou de romans de genre, les contraintes qui sont là sont les contraintes des mondes qu'ils ont eux-mêmes créés.
Bien sûr.
Quoi qu'il arrive, l'auteur reste contraint par certaines directives.
Et c'est très simple, parce que je crois qu'on ne peut pas écrire sans contraintes, de toute façon. En plus, c'est stimulant. Voilà. Alors, juste une chose sur les lecteurs, mais je le répète, moi, je suis un peu à part là dans ce. Moi, j'ai des contacts avec un certain nombre de lecteurs qui sont pas du tout de même nature. On me dit pas, vous auriez dû essayer ça. C'est soit merci de nous avoir révélé cet épisode, soit c'est espèce de gros connard.
Carrément.
Tu vas voir tu salis la mémoire de nos camarades nazis, etc., etc. Parce que c'est ça aussi. Internet.
Quel dommage, la mémoire des camarades nazis.
Non, mais allez sur Internet voir le nombre de sites. Néo-nazis, négationnistes, etc. Et comme c'est relativement facile de trouver l'adresse de quelqu'un, moi j'ai ce genre de choses. Dernier convoi pour Buchenwald, j'ai eu à la fois des choses de gens qui me remerciaient, qui me disaient qu'ils avaient appris énormément de choses ou autres, mais je peux vous dire que j'ai reçu aussi un certain nombre de choses plus qu'insultantes, puisque là on est carrément dans la menace, c'est tu vas voir quand on va reprendre le pouvoir ou autre. C'est pas plus vieux qu'il y a la semaine dernière où j'ai reçu des messages de menace d'un groupe néo-nazi qui est dans la région de Besançon. Et au même moment, deux jours après, il y avait dans l'Est républicain un gros article sur ce groupe Blood and Honor qui se répand dans toute la région. Il y en a un qui a lu Dernier convoi pour Buchenwald, ou qui en a entendu parler, ou qui en a vu des extraits chez un libraire. Donc mes rapports, moi, avec les lecteurs, sont pas forcément... Ils sont le reflet de ce que j'écris aussi. C'est-à-dire que c'est ou bien... en gros, des remerciements ou des demandes de renseignements en me disant qu'est-ce qu'on peut trouver sur le sujet ou autre, je m'intéresse à tel ou tel aspect, ou alors carrément des attaques frontales. On ne me demande pas de changer les personnages, on ne me dit pas qu'on ne voit pas assez aussi. Alors cela dit, j'ai fait aussi deux séries, enfin beaucoup moins importantes puisqu'il y a eu 4 volumes dans l'une et 3 dans l'autre, mais c'est parce que ça s'y prêtait, une série sous pseudonyme sur le Ku Klux Klan, et puis une série d'une femme qui a été victime d'une erreur judiciaire. Donc là, effectivement, on a des contraintes, on a un personnage qui évolue, et aussi des lecteurs ou des lectrices qui disent « Elena Reynal, alors, oui, mais est-ce qu'elle va réellement rester comme ça, sans réapprendre à vivre, trouver l'amour, etc. etc. » c'est assez... Mais ça prouve simplement bien qu'on est à une époque où le lecteur peut arriver à contacter l'auteur, et qu'il c'est une preuve... Finalement, c'est très réconfortant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, chacun à notre façon, et qui trouvent dans nos livres eh bien, des raisons d'avoir du plaisir, d'espérer, de pleurer. C'est ça le but. Alors, dans un film, c'est beaucoup plus spectaculaire, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui voient, ils sont dans la même salle. Enfin, encore que, je regrette l'époque où on allait rire ensemble, et plutôt que chez soi en louant des films, mais c'est comme ça, je suis un vieux con, ou pleurer ensemble.
C'est-à-dire que maintenant, ils viennent rire avec vous, mais ils viennent avec leur pop-corn, et franchement, c'est un peu désagréable.
Ouais, bon, pas seulement, mais c'est vrai que quand t'es dans une salle, enfin, tu étais dans une salle et que tout le monde riait, ça avait un côté quand même... bon. Moi, j'ai une certaine nostalgie aussi, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgiques dans les écrivains, nostalgiques de choses ou d'autres. Et dans les lecteurs aussi, bien sûr.
En fait, non, vous avez raison, c'est très réconfortant et c'est très très agréable quand les lecteurs nous disent, même quand ils nous disent, mais non, et vous êtes là, mais non, mais moi ce personnage-là, j'en veux plus, et de toute façon, ça va pas bien se terminer pour lui, ou alors il va se passer ça, et moi j'ai prévu ça, et ils vont tous râler, mais en même temps, c'est super réconfortant parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, on sait que l'univers que vous avez créé, ça fonctionne, les lecteurs marchent avec vous, ils sont avec vous, vraiment à vos côtés, ils sont imprégnés par l'histoire et je trouve ça génial, non, c'est super, sauf que c'est vrai que par exemple il y a une fois où j'ai renoncé, j'ai dit non bah tant pis, je vais te la faire sous la pression, j'ai dit bon d'accord, mais c'est pas grave parce que c'est de l'urban, je veux dire c'est pas la même chose, moi je suis pas sur des sujets difficiles, sérieux, pas toujours faciles à appréhender comme les vôtres, nous on est sur des choses très légères, moi je suis sur quelque chose de très léger, donc pour le coup c'est pas du tout le même engagement, le même travail et le même rapport non plus avec le lectorat. On est là vraiment, dans ce qui me concerne, moi, uniquement, c'est la distraction pure et dure. C'est du rire et beaucoup d'humour en général, donc c'est pas... Voilà.
Hervé, le rapport avec un lectorat un peu plus jeune, c'est différent aussi ?
Moi, jeune, ça va pas en dessous de 11-12 ans, et il y a des enfants de 11-12 ans qui sont bien plus éveillés que certains adultes, donc...
Donc ça pas va. De différence.
Il n'y a pas une grosse différence. Non, je vois autant, ce matin, j'ai signé un bouquin, par exemple, à un monsieur de 45 ans qui est prof de biologie, qui joue encore au jeu de rôle, qui était vachement sympa, qui a un boulot sérieux, sans doute une famille, et qui est encore dans le monde de l'adolescence. Voilà, il n'y a pas de...
Ouais, le jeu de rôle, selon à quoi on joue, ça peut ne pas être très adolescent, quand même.
Non, mais ça reste adolescent, on s'en a parlé un peu. C'est-à-dire que les frontières, elles explosent facilement tant qu'on n'oublie pas l'enfant qu'on a été. J'enfonce une porte ouverte, mais on est dans ce cas-là, on est encore un pied dans l'enfance, hein, c'est clair. Et y a beaucoup de lecteurs qui sont comme ça aussi, et c'est très bien.
Michel, vous, il n'y a pas que des choses légères dans l'univers d'Angeloki, par exemple.
Non, moi c'est pas cuicui les petits oiseaux, mon univers c'est sûr. Moi, comme je l'ai dit, j'ai créé ma fantaisie parce que je ne trouvais pas, en tant que lecteur, une fantaisie résolument pour adultes. Du coup, parce que effectivement, comme la plupart des écrivains, enfin en tout cas des écrivains d'imaginaire, j'ai une part d'enfant. Mais c'est vrai que mes aspirations et mes goûts sont devenus des vrais goûts d'adultes, et donc mon univers c'est un vrai univers d'adultes. C'est violent, y a du sexe, y a des luttes de pouvoir, il y a des trahisons, ma fille a 11 ans, elle lit énormément de trucs et elle lit de la fantaisie, il n'est pas question qu'elle lise mes romans pour l'instant. Donc effectivement, moi c'est pas un univers léger, c'est un univers très sombre.
Qui du coup ressemble plus aux univers sombres du roman noir.
Tout à fait. D'ailleurs, je m'inspire bien plus des romans noirs et des thrillers. Je suis un gros lecteur de romans américains que d'intrigues plutôt fantasy.
Justement, et on finira peut-être par une ou deux questions, mais quels sont les auteurs, avant que vous soyez vous-même auteur et romancier, quels sont les auteurs qui vous ont donné envie, ce goût de... Oui, je sais, c'est une question un peu bateau, mais, mais pourquoi pas ?
Moi, c'était quand j'avais 10 ans, Tolkien. Voilà. Quand j'ai eu la conscience que dans ces trois tomes, il y avait un univers, une carte au début, que le type il maîtrisait tout, et qu'il allait m'emmener pendant 3-4 jours de lecture continue. Voilà. Puis après, j'ai un peu été voir plus loin, mais c'était ça.
Un bon début, Rebecca. Cassandra, tu as l'habitude.
Mon premier vrai coup de foudre littéraire, c'était Colette, qui avait elle aussi un univers qui avait rien à voir, mais je crois que c'était les Claudines quand j'avais 10 ou 11 ans, je pense. Et puis après, effectivement, ça a été la rencontre Tolkien, Harry Dickson, toutes les BD, ça allait du Vagabond des Limbes à Thorgal, enfin toutes. Voilà, c'est tout cet univers-là qui m'a transporté. Ouais.
Michel ?
Moi, je pense que le premier, ça a été les romans de Dumas, qui constituent pour moi le maître de l'aventure avec un grand A. Il y a eu les romans de Robert Howard, qui est le créateur de Conan. Il y a eu Tolkien, évidemment, Fenimore Cooper, et le western. Il faut vraiment que j'écrive un roman western parce que ça me tient à cœur depuis quelques années. Et donc voilà, et c'est donc voilà, c'est ça, c'est tous les romans d'aventure un peu épiques, voilà, tout ça que j'ai dévoré quand j'étais petit.
Et Roger, on s'inspire de quoi pour finir par écrire du roman noir ?
Non, c'est pas forcément qu'on s'en inspire. Moi, j'ai ma rencontre essentielle, c'est Jack London, tout Jack London. D'abord, forcément, les romans du Klondike, La fièvre de l'or, les romans d'animaux, puis des romans différents comme Martin Eden, dont je considère que c'est un roman, vous savez, c'est la fameuse question, si vous deviez aller sur une île déserte, bon, j'en porterai peut-être pas que Martin Eden, mais j'aimerais bien qu'il y ait Martin Eden. Donc Jack London m'a marqué durablement. Après, ben, y a plein d'auteurs qui m'ont marqué. Dumas m'a marqué, Hugo m'a marqué, Zola m'a marqué, tous ces grands écrivains français m'ont marqué, et puis plein d'auteurs étrangers, et pas forcément anglo-saxons, même si j'ai lu énormément de romans anglo-saxons, mais Gorky, Knut Hamsun en Norvège, qui était qu'on appelait le Jack London, voilà. Et puis le roman noir américain, Hammett, et puis un certain nombre d'autres. Et puis j'ai été très marqué aussi par le western, puisque mon rêve, c'est de trouver un éditeur qui ait beaucoup d'argent et qui me permette de faire une encyclopédie du western définitive où il y aurait tout, y compris l'inspiration dans les chansons, les folk songs.
Attends que j'écrive mon roman alors, parce que il faut qu'il soit dedans.
Mais le western est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup marqué, voilà. Donc, puis enfin, il faudrait citer des tas d'autres auteurs parce que on fait des rencontres quelquefois tardives qui marquent votre vie, quoi, mais qui n'inspirent pas forcément votre écriture ni vos sujets, voilà, parce que.
Mais au moins votre subconscient.
J'ai pas parlé de Stevenson, L'île au trésor, ça reste un des romans qui m'ont ébloui, voilà, la rencontre Long John Silver qui arrive avec son pilon, l'enfant, et tous les romans de Stevenson. Voilà.
J'ai appris hier, grâce à Stéphane Marsan, que Stevenson avait écrit 70 romans avant L'île au trésor, et qu'il a failli arrêter juste avant que L'île au trésor soit publié.
70, c'est beaucoup. Ah. Qui est-ce qui a dit ça ?
Stéphane Marsan.
Stéphanie a dit ça,
mais
ça...
Non, Stéphane, c'est pas de Mossberg.
Ah bon, non, d'accord, non, mais je crois pas.
Ah, bon, je crois à vérifier.
Non, il y en a beaucoup, mais pas 70. Non, il y a beaucoup de nouvelles, en revanche. Mm. Mais 70, non, j'ai tendance à croire qu'il y en a beaucoup moins. Mais bon, on ne va pas se voir. En tout cas, ce qu'il a écrit mérite que ce soit Dr. Jekyll ou toutes sortes de contes absolument remarquables. Mais c'est un des auteurs qui a marqué, je pense, l'imaginaire. Et alors là, l'imaginaire, on est à fond dedans.
À fond, ouais, voilà.
Si j'avais dû faire ce que vous faites, ça aurait été... grâce à Stevenson.
Mais j'avoue que je suis fan aussi. Donc là, on est pas... Et puis quand on parlait de romans de KPDP, c'est la même chose.
Moi, j'ai une petite anecdote sur Stevenson, parce que c'est aussi un de mes préférés. J'avais fait une bio pour l'école des loisirs, une bio romancée, et j'avais bien fouillé la vie du bonhomme. Et à la fin de sa vie, donc sur les îles Tonga, là où il est mort, il y a chaque chapelet d'île a son roi, sa reine, plutôt qu'une reine qu'un roi. Et il est invité à un mariage, donc deux jours de navigation, il reste sur place une semaine, etc. Donc, il assiste au mariage. Et c'est un peu un rite à la catholique, dans la langue de l'île en question qu'il ne comprend pas, mais il assiste quand même à la cérémonie. Donc on jure sur un livre, après c'est la fête, etc. Puis à la fin de la cérémonie, il va quand même voir sur quel livre ils sont jurés fidélité. Et il dit, c'était le plus beau jour de ma vie d'écrivain, c'était L'île au trésor. Ouais, il savait pas, la reine ne savait pas que c'était l'île au trésor, en plus dans une version pirate. Parce qu'il faisait des versions pirates à l'époque déjà, donc voilà.
Et ben voilà, je pense qu'on va pouvoir finir sur cette belle anecdote. On peut jurer sur des livres de l'imaginaire pour se marier. Incroyable. Merci à tous et merci à vous quatre.
Merci à toi. À manger.